Hello, je suis Victoria et j'ai 23 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Quand tu es convaincu qu'un truc doit exister, qui fait du bien, qu'il existera, s'il reste des hommes sur cette planète dans 30 ans, et bien en fait ce truc existera, donc faut le monter. Souvent, cette idée, elle n'existe pas, non pas parce que personne n'y a pensé ou quoi, c'est parce qu'il n'y a pas de modèle économique. Et en fait, il faut inventer des modèles économiques qui fonctionnent.
Maxime de Rostolland n'achète rien. Il a deux pantalons, quatre t-shirts, une paire de chaussures depuis 3 ans, une vieille Twingo depuis toujours. Il incarne ce qu'il dit. Il organise de grandes fêtes, adore la vie et les gens. C'est précisément pour cette raison qu'il tient tant à protéger la vie. Son ressort, c'est une indignation mêlée à une forme de confiance en lui et en l'homme. Son levier, c'est celui de l'agriculture. Il rêve d'une transition agricole qui ferait pousser des fermes agroécologiques partout en France. Et de ce rêve, il tisse plusieurs projets. Bluebees, Ferme d'Avenir, La Bascule. Tout récemment, il vient de lancer SailCop, le premier réseau coopératif de transport de passagers en voilier. Au-delà de l'agriculture, c'est tout un mode de vie que Maxime nous invite à repenser. Il est de ces acteurs du changement qui inspirent et qui donnent l'élan pour changer le monde. Avec Maxime, on parle d'agriculture, de sobriété et d'écologie. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Merci de m'accueillir chez toi pour cette interview. Tu es l'une des personnalités sur l'écologie les plus vues en France, notamment grâce à ton projet Ferme d'Avenir, qui œuvre dans le sens de la transition agricole, et grâce à ton mouvement de lobby citoyen La Bascule aussi. Tu fais plein d'autres choses, mais en quelques mots, ta mission, c'est d'accélérer la transition agricole en France pour agir plus largement sur la transition écologique. Tu as grandi à Paris avec une mère qui travaille chez IBM et un père directeur dans l'hôtellerie-restauration. Quel petit garçon tu étais, Maxime ? Est-ce que tu peux nous parler de toi petit ?
J'étais sensible à l'injustice, assez vite. J'étais dans une école catho dans laquelle il y avait plutôt des gens de bonne, très assez riches et c'était assez compliqué de pour moi de les voir conjuguer la parole de l'évangile voilà qui était ce qu'elle était mais qui nous était malgré tout inculqué tous les jours et ce traitement qu'il réservait aux autres quoi aux moins riches aux différentes couleurs de peau enfin c'était dingue moi j'ai été très vite indigné par la société et à côté de ça je lisais pas mal, mes parents m'ont emmené voyager assez vite et donc j'ai eu la chance de découvrir à l'époque où le carbone n'était pas un sujet d'aller découvrir des coins très lointaines et ça a été une vraie ouverture. Donc voilà, j'ai assez vite indépendant par rapport au cadre qui semblait vouloir s'imposer à moi et très avide de découverte.
Comment ta philosophie militante pour l'agroécologie, elle s'est forgée au fil des années ? Quel est ton lien à la terre finalement, comme tu as grandi à Paris ?
Il se trouve que ma sœur, ma petite sœur qui est de 2 ans, ma cadette, à 17 ans, alors que nous étions à Paris, a elle décidé qu'elle serait paysanne bio à 17 ans. Et donc elle a suivi le parcours qu'il fallait pour, et elle a dirigé Terre de Liens à un moment pendant en Haute-Normandie, et puis elle est devenue paysanne. Et moi, c'est arrivé à peu près 2 ans après son installation, ce déclic. Et ce déclic, alors vraiment très concrètement, pourquoi l'agriculture ? Moi, j'ai découvert le biomimétisme, donc le fait de s'inspirer de la nature. Et ça, ça a été un vrai bol d'air, puisque à l'époque... je travaillais depuis, c'était en 2007, j'ai commencé ma carrière professionnelle. Et en 2009-2010, j'étais déjà un peu désabusé par le discours ambivalent des entreprises.
Qu'est-ce qui te dérangeait dans ce discours-là?
Ben en fait, parler avec la directrice développement durable d'une grande banque qui m'expliquait à quel point l'investissement socialement responsable, les pratiques positives de la banque étaient admirables. Et d'un autre côté, lire dans la presse que cette même banque continuait à déforester en Indonésie pour planter des palmiers à huile. Donc ça, c'était compliqué. Et c'est là que j'ai découvert donc le biomimétisme et la permaculture, puisque c'est un petit peu le biomimétisme appliqué à l'agriculture. Et c'est un bouquin de Janine Benus qui s'appelle Biomimétisme, qui a un peu changé la donne pour moi. Elle dit donc que à l'époque on était très on était productif en positif, et aujourd'hui avec les méthodes de production, la mondialisation, le gaspillage, le régime carné, tout ça qui rentre dans l'équation énergétique de l'alimentation, aujourd'hui il nous faut 7 à 10 calories fossiles pour faire une seule calorie alimentaire. Donc on a divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture depuis l'époque de nos grands-parents. Et moi ça a été révoltant. Je me dis, mais c'est pas possible. Et en plus, ça veut dire que le jour où le pétrole vaut $200 le baril, on sait plus se nourrir, quoi. Et donc, c'est là que je suis retourné voir ma sœur. On n'avait pas perdu contact, mais j'ai pris du temps avec ma sœur pour aller voir ce qu'était la vie de paysanne. Il se trouve que notre cousin est lui-même éleveur. Ma femme est brésilienne et toute sa belle famille, enfin, toute sa famille, donc, sont éleveurs au Brésil. Donc, j'avais, les circonstances de la vie, eu des liens avec la terre. Et quand j'ai découvert cette équation tragique, je me suis dit, en fait, il faut changer les choses. Et donc, essayons de faire quelque chose.
Et donc, 10 ans après être sortie de ton école d'ingénieur en biochimie à Toulouse, tu es retournée sur les bancs de l'école pendant un an, en janvier 2013, pour préparer un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, spécialité maraîchage bio. Et tu dis, l'agriculture chimique intensive contribue au dérèglement climatique, à l'effondrement de la biodiversité, aux inégalités et aux problèmes de santé. J'ai un fils handicapé, son cerveau ne s'est pas développé normalement, ce n'est ni métabolique ni génétique, il est peut-être un enfant des perturbateurs endocriniens. La bonne nouvelle, c'est que si elle change, l'agriculture peut résoudre les maux qu'elle a contribué à développer. Alors tu contribues à faire évoluer cette agriculture et tu as créé le projet Ferme d'Avenir. Et dans ta ferme pédagogique au château de la Bourdésière, si je prononce bien, qui expérimente des techniques de permaculture, tu as reçu Emmanuel Macron pour lui remettre un plaidoyer avec des propositions pour une transition écologique portant sur l'agriculture française. Alors pour toi, elle ressemble à quoi l'agriculture de demain ?
Ce qui est dingue avec l'agriculture industrielle et chimique, que j'ai du mal à appeler conventionnelle parce que j'ai pas signé de convention et personne n'en a signé.
Ah, c'est rigolo.
Mais l'agriculture chimique et industrielle, elle a détruit effectivement, elle détruit le climat, elle détruit la biodiversité, elle pose des problèmes de santé, elle détruit les vies des zones rurales, puisqu'en fait, comme les exploitations sont toujours de plus en plus grandes, il y a de moins en moins de gens dans les villages, donc les villages se vident. Elle pollue l'eau. Et si au moins elle créait de l'emploi, on pourrait invoquer ça, on pourrait dire ok, mais en fait nous ce qui est important c'est d'avoir de l'emploi, le plein emploi. Et c'est même pas le cas, puisqu'elle a détruit 80% des emplois du secteur, donc c'est faux sur toute la ligne. Donc ce qui est sûr, c'est que l'agriculture de demain, elle est aux antipodes de celle d'aujourd'hui. Un des points importants, c'est que dans l'agro-système, il faut des animaux, il faut de la diversité. Je précise, il faut des animaux, rien n'impose de les tuer. On a besoin d'animaux pour les bénéfices qu'ils peuvent, eux, apporter avec leur système digestif et transformer de la matière non digérable par nous en de l'amendement pour faire pousser ce que nous, on sait manger. Bref, il faut le modèle de demain, je pense que ce sera quelque chose... Moi, j'en ai jamais parlé, mais... L'autre jour, je faisais les vendanges. Enfin, je le fais tous les ans, et en faisant les vendanges, je me disais, mais donc là, je vais contribuer à 0,01% du travail de ce viticulteur. Potentiellement, il pourrait me donner 0,01% de sa production, plutôt que de me payer. Enfin, je le faisais en bénévole, mais s'il y en a qui le font en étant payé. Et il pourrait rémunérer comme ça. Et on pourrait dupliquer la même chose avec un paysan boulanger, avec un maraîcher, avec un céréalier. J'en sais rien. Moi, j'adorerais que les gens puissent avoir cette option de dire, en fait, je vais moins travailler pour un travail absurde, et je vais prendre de mon temps pour faire des choses qui, quelque part, vont contribuer à ma subsistance, puisque je vais recevoir du pain, je vais recevoir des céréales. Et voilà, ça, j'aimerais bien qu'on creuse cette idée. C'est un peu collectiviste dans une certaine mesure, mais je trouve que c'est vachement enrichissant, ça, ce serait vachement enrichissant pour les citoyens que nous sommes d'avoir, je sais pas, une semaine par mois, 10 jours par mois consacrés à travailler avec soit des artisans, soit des agriculteurs. Je dis artisans, on pourrait dire les chaussures, faire des chaussures à la main, ou c'est quelque chose qui prend du temps, mais on peut aller bosser dans une usine, je sais pas, 5 jours dans l'année, et ça fait, on repart avec une paire de chaussures. Peut-être que ça vaut ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça c'est...
Mais ça nous détache de cette idée que travailler, c'est forcément égal à gagner de l'argent, quoi.
Oui, et puis en fait c'est vraiment penser en dehors du cadre, c'est-à-dire je m'affranchis en disant ça de plein de normes culturelles auxquelles on a été habitué, mais qui à mon avis ont tout intérêt à être remises en question et à être repensées, quoi.
Et elles le sont aujourd'hui un petit peu.
Ouais, ça, j'aime bien parce qu'on dit toujours ah mais là les gens ils sont plus conscients et tout. Enfin, je me souviens en 2008 quand il y a eu le Grenelle de l'environnement, tout le monde disait ça déjà. Ah c'est dingue. Et puis à la fin du Grenelle, on s'engage à diviser par deux l'usage des pesticides d'ici à 2015. Donc entre 2008 et 2015, l'ambition, l'engagement était de diviser par deux l'usage des pesticides. Et au final, on a pris 20% d'augmentation. Donc
mais tu as le sentiment quand même que de manière générale, les consciences s'éveillent sur ces sujets-là ou pas?
Bah, plus il fait chaud en Algérie, plus on a des événements climatiques impressionnants, des sécheresses, des canicules, des inondations comme en Allemagne l'année dernière, moins on peut se voiler la face, quoi. Moins on peut l'ignorer. Donc après, il y a des gens qui continuent à dire... Bon bah si jamais l'humanité doit disparaître, c'est qu'on est trop con pour rester ici, et tant pis. Et donc moi je profite, j'ai qu'une vie. Ouais, je pense qu'il y a un peu de tout encore.
Janine Benuis, donc qui a écrit Biomimétisme, elle dit que si l'on est convaincu qu'il faut changer de paradigme, la première brique à poser, le socle sur lequel ériger le nouveau modèle, c'est l'agriculture. Tu crois aussi que la première brique à poser, celle de l'agriculture, pour changer les paradigmes, ou ça passe par autre chose?
Alors, je dirais que si on se limite à ce dont on a besoin d'un toit, de manger, de se divertir dans une certaine mesure, mais globalement, s'il devait rester qu'un truc, ce serait la nourriture. Donc, oui, je pense que si jamais le dernier truc qui nous resterait en cas de crise est aujourd'hui fondé ou structuré de manière anti-résiliente, on court un risque. Si jamais on doit vraiment penser à notre survie et au monde d'après, c'est ça qu'il faut repenser. Et encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est que on a toutes les solutions. Enfin, en gros, l'agroécologie présente tous les avantages. Elle régénère la biodiversité, elle capte du carbone, elle préserve la santé des gens, elle produit de l'eau potable, elle crée de l'activité ou de l'emploi comme on veut. Olivier de Schutter dit « L'agroécologie n'est pas une solution, c'est la seule. » Mais juste pour compléter la réponse, il me semble qu'il y a un autre enjeu phare, et je l'ai compris en fait sur le tard, et c'est ce qui m'a... Enfin, sur le tard, avec l'expérience, c'est ce qui m'a poussé à monter la bascule, c'est que je pense qu'il n'y aura pas de révolution, de transition écologique sans une réelle transition démocratique. Et ça questionne notre gouvernance la manière la manière dont s'exerce le pouvoir en France aujourd'hui, en France et dans le monde, hein, parce que je pense qu'on traverse une crise qui est civilisationnelle et pas juste nationale, loin de là, quoi. Donc la première brique, c'est penser, c'est dans l'agriculture, mais pour pouvoir poser cette brique, pour pouvoir la cimenter, il faut des réformes, à mon avis, profondes sur la manière dont s'exerce le pouvoir. Enfin, voilà.
Est-ce que tu crois aussi au pouvoir de chaque citoyen en tant qu'individu? Je sais que tu as notamment connu Pierre Ravi qui défendait la sobriété heureuse. Est-ce que tu penses que aussi individuellement, il faut revenir à ça, à plus de sobriété dans nos vies?
Enfin, on peut pas demander à des dirigeants d'entreprise, à des élus, de prendre des décisions ou des orientations que les gens qu'on n'arrive pas à s'appliquer soi-même dans d'une certaine manière, même si on sait qu'elles sont nécessaires. Enfin voilà, vous savez, enfin tout le monde sait qu'il faut diminuer, faut diviser par 10 sa consommation de viande. Personne le fait, peu de gens le font.
Il y a de plus en plus, on y croit.
Heureusement, mais on est 2%, quoi. On est 2%.
Ah oui, c'est 2%. Ouais, j'avais pas le chiffre.
Donc c'est rien, et c'est juste sur la viande. Après, le poisson, c'est encore moins, mais. Donc, on sait qu'il y a des choses qu'il faut faire et on les fait pas. Et je pense que ces changements individuels sont un ferment pour asseoir et légitimer des actions politiques. Après, il faut pas se mentir. Il y a un bouquin que j'adore de Jean-Marc Gancil qui s'appelle Ne plus se mentir.
Que j'ai reçu sur le podcast aussi, Jean-Marc
Gancil. Ah ouais, Jean-Marc. qui a écrit Ne plus se mentir et qui est assez clair, quoi. Si jamais on veut vraiment changer les choses, les comportements qu'on demande à chaque individu sont tellement héroïques que faut pas imaginer qu'on les adopte. Et en fait, le Shift Project montre ça et dit si jamais tout le monde faisait ça, ça ne représenterait qu'un quart de l'effort. L'effort à fournir, il est au niveau politique, au niveau des entreprises. Mais ça veut dire quoi concrètement? Que les entreprises, ben en fait, elles doivent envisager ce dont tu parlais, la sobriété heureuse, la sobriété. Et c'est un mot qui fait mal, mais la décroissance, il faut à un moment ralentir sur la production, ralentir sur l'activité. Je sais pas comment on va changer de paradigme pour sortir de ce capitalisme hyper avide de croissance et donc d'exploitation d'un côté de capital, enfin de concentration de l'argent de l'autre côté. Je sais pas comment on va réussir à sortir de ce paradigme pour passer dans le suivant qui est le seul à même de nous d'assurer notre survie, je pense.
Bah la question de comment rester optimiste se pose du coup. Tu dis que chacun doit se saisir de la question du dérèglement climatique comme si elle ne reposait que sur ses propres épaules. Les utopistes sont ceux qui croient qu'on peut continuer comme ça, pas ceux qui pensent qu'un autre monde est possible. Alors comment on reste optimiste quand on prend la question du dérèglement climatique sur nos propres épaules? Ça, c'est vertigineux quand même.
Alors déjà, ces deux phrases sont pas de moi. Elles sont, c'est des phrases un peu connues, mais je les ai citées dans le bouquin. Mais c'est des phrases qui sont devenues des mantras.
Histoire de que tu incarnes au quotidien.
Ouais, que j'incarne, en tout cas, que je me rappelle au quotidien. Comment est-ce qu'on reste optimiste? Je sais pas, moi j'adore la vie. Enfin, je sais pas, c'est beau. Enfin, il suffit de regarder autour de soi le miracle de la nature, du vivant. Puis après, je sais pas, moi j'ai des refuges dans lesquels je recharge les batteries ou ma jauge d'optimisme.
Quels sont-ils ces refuges?
Je fais la fête souvent. Ah. Non, mais c'est une phrase que j'adore, qu'on attribue à Emma Goldman, qui est une révolutionnaire russe des années 20 et qui a émigré aux États-Unis et qui a essayé de se faire récupérer par pas mal de mouvements révolutionnaires de par le monde. Elle aurait dit « Je veux bien faire votre révolution si dans votre révolution on danse ». Et je trouve ça génial. Voilà, moi c'est on peut danser, quoi. Enfin, on peut encore danser en Ukraine, en Afghanistan, c'est pas exactement la même chose, mais on peut encore danser et c'est ça qui me laisse le cœur joyeux souvent. Et puis voilà, faut comprendre que le résultat ne nous appartient pas individuellement. Ça rejoint la question précédente, c'est de dire, bah en fait, moi, je fais tout ce que je peux. Il y a un proverbe chinois qui dit, tu peux courir dans tous les sens, t'exciter, etc. La Terre, elle tourne. Donc ouais, la Terre, elle tourne et c'est beau et c'est un miracle. Et effectivement, je veux pas rejoindre le clan des nihilistes ou des cyniques, mais bah voilà, si on n'y arrive pas, hein. Si la civilisation est pas assez intelligente pour s'inscrire dans la durée et crame tout en deux générations, ben qu'est-ce qu'on peut faire, hein?
Comment on peut se rendre utile à la société pour celles et ceux qui peut-être aujourd'hui veulent s'engager mais savent pas par où commencer?
Il y a plein de manières de le faire. Je pense pas qu'on puisse agir sans être heureux d'une certaine manière ou sans être serein, et donc les petits gestes du quotidien, commencer par avoir de l'empathie avec ses semblables et par être bienveillant et par essayer de distiller des gouttes de bonheur un peu partout autour de soi. C'est une première chose. C'est évidemment loin d'être la solution à tout ça, mais je pense que déjà on irait mieux collectivement s'il y avait plus moins de clivages, de haine, etc. Et ensuite, évidemment, il y a des choses concrètes qu'on peut faire. Soit pour diminuer son empreinte, on le disait, arrêter la viande, arrêter l'avion, etc. Mais en fait, c'est aussi savoir où est-ce qu'on alloue son énergie et son temps. Et il y a aujourd'hui des métiers dont on sait pertinemment qu'ils sont toxiques, qu'ils produisent juste des choses innécessaires et polluantes et sans doute qui créent des disparités sociales. Bref. Donc tous ces métiers-là, faut éviter.
Il y en a certains qui vont répondre oui, mais c'est bien beau, mais il faut aussi gagner de l'argent. Donc comment j'ai licence et métier alimentaire, qu'est-ce que tu leur réponds?
Je réponds qu'effectivement, s'ils ont besoin d'argent et qu'ils estiment que les besoins qu'ils ont ne peuvent pas être remplis par une autre manière que accepter un job toxique, qu'ils le fassent. C'est la première des choses. Pour eux, évidemment, mais si jamais on dépasse ça, il y a deux choses. La première, c'est il n'y a pas que des jobs toxiques, et donc du coup il y a forcément des gens qui recrutent et qui peuvent. Alors je dis pas que c'est de l'autre côté de la rue, hein. Je dis c'est compliqué, et j'ai accompagné plein de jeunes depuis des années qui ont envie de s'engager dans ces jobs. À force de persévérance, ils y arrivent généralement à trouver quelque chose. Et la deuxième réponse, c'est que oui, bien sûr, le modèle économique aujourd'hui, il est délétère et il est incompatible avec nos ambitions, les ambitions qu'on doit avoir en termes d'écologie et de justice sociale. Et donc, il convient de le remettre en question, de le bousculer, de le chambouler, de le transformer. Ce modèle économique, et là, ça s'appelle faire du lobbying. C'est un petit peu ce qu'on fait avec la bascule et qu'on continue à faire dans le cadre des projets que je mène là, par exemple. C'est l'idée d'essayer de changer le cadre. De changer le cadre et de dire, arrêtons d'avoir pour seul indicateur le PIB, et donc l'argent. Intégrons dans nos méthodes comptables, dans les comptes de résultats ou bilan des entreprises, le capital naturel et le capital humain. Faisons le bilan de tout ça et indexons les impôts sur le résultat en triple capital. Alors évidemment, c'est de la prose et c'est un vœu pieux. Toujours est-il que plus on sera à affirmer que le fond du problème, c'est le modèle économique, parce que c'est ça, hein, le fond du problème, il est là, c'est la place qu'a l'argent et la manière qu'a l'argent de se répartir. Il faut repenser la manière dont on compte les choses, dont on évalue le bien des choses. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un truc, c'est l'argent. T'as une belle bagnole, c'est que t'as réussi, c'est que t'es bien, Non, en fait, si jamais ton activité, elle génère de la souffrance à l'autre bout du monde ou de la pollution, même en bas de chez. Mais en fait, quelque part, ton activité, faut qu'elle cesse ou qu'elle se repense. Et donc, la seule manière de contraindre, c'est aujourd'hui l'argent. Et donc, il faut changer la manière dont on compte les choses et dont on répartit l'argent. Ouais.
Et notre rapport au monde. Comment tu définirais la réussite, Maxime ?
S'il y avait qu'un truc à réussir dans sa vie, c'est à trouver le bonheur. Donc, je veux dire, quelqu'un qui est n'importe quoi sur une plage au Costa Rica, dans un truc paumé et qui voit personne, mais qui a jamais bossé, mais qui vivote que. S'il est heureux, il y a personne qui pourrait lui dire t'as pas réussi. Enfin, c'est pas. En fait, je pense que. Alors non, je tente un truc, hein, mais peut-être que se poser cette question-là et dire est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il a pas réussi, c'est oublier le fondamental de la vie qui est que déjà. C'est compliqué, mais c'est on peut pas savoir si les gens sont heureux, si, et c'est ça en fait, c'est au fond de chacun. Et est-ce que tu es heureux de ce que tu fais, de ce que tu es, de ce que tu vis? À mon avis, c'est ça qui, et ça ne évidemment, hein, dans le langage commun, on parle de ah, il a bien réussi parce qu'il a fait carrière, etc. Mais
c'est vrai qu'on allie souvent la réussite à la carrière qu'on a fait.
Mais ouais, mais je vais pas balancer, mais quelqu'un de ma famille, banquier toute sa vie, jaguar de fonction, Il a eu beau avoir une Jaguar de fonction, j'ai jamais eu l'impression qu'il avait réussi sa vie, quoi. J'ai jamais eu l'impression... Enfin, il a des enfants qui pensent qu'à l'argent, enfin... Donc non, et j'espère qu'il se reconnaîtra pas s'il écoute, mais... Ouais, on pense à ça, mais je pense que c'est une mauvaise piste. Moi, je rencontre tellement de gens heureux et qui réussissent leur vie en ce moment. Enfin, c'est pas j'ai réussi. Et d'ailleurs, c'est pas un. Enfin, l'aboutissement, la vie est en permanence.
Bien sûr. Est-ce que tu voudrais dire aujourd'hui aux jeunes qui ont autour de 20 ans et qui cherchent leur chemin, quel conseil tu voudrais leur donner?
Bah, de suivre. De suivre leurs intuitions et leurs visions. En tout cas, moi, c'est le truc, c'est que dans chaque projet que j'ai fait, Bluebees, on a cassé le monopole bancaire, Ferme d'Avenir, on a fait péter...
Je mettrai tous les liens de tes projets dans la barre d'infos.
Ouais, on a... Ferme d'Avenir, on a fait péter des standards, la bascule, pareil, ça a donné... beaucoup de jeunes de la bascule étaient dans la primaire populaire, dans la convention citoyenne, la communitrice, on tord le bras du gouvernement. En gros... Toujours, moi, dans les projets, et là, SailCop, c'est quand même le projet rigolo du moment, c'est on relance le transport de passagers à la voile. Donc là, on achète des bateaux et on propose aux gens d'aller en Corse, voire à New York, à la voile. Ça, c'est mon conseil, il vaut ce qu'il vaut, puisqu'il n'est que de moi, mais c'est le plus personnel que je puisse faire. C'est que quand tu es convaincu qu'un truc doit exister, qui fait du bien, qu'il existera si jamais... Enfin, moi, souvent, je me suis dit, putain, mais ce truc, si dans... 30 ans, il reste encore des hommes sur cette planète, ce dont j'ai toujours aimé à douter. S'il reste des hommes sur cette planète dans 30 ans, et ben en fait, ce truc existera. Donc, faut le monter. Et souvent, en fait, et c'est pour ça que la question économique est un point central des réflexions que j'ai, c'est souvent, cette idée, elle n'existe pas, non pas parce que personne n'y a pensé ou quoi, c'est parce qu'il n'y a pas de modèle économique. Et en fait... il faut, c'est là que je dis qu'il faut bousculer le modèle économique, il faut inventer des modèles économiques qui fonctionnent. Et souvent, ça passe par faire du lobbying, parce que le modèle économique, dans une certaine mesure, c'est à l'État, puisque nous, ce qu'on veut, c'est, pour moi, les missions absolument indispensables et qui font pas, il y a pas photo, c'est il faut replanter des arbres, il faut régénérer les écosystèmes, il y a pas mal de choses à faire qui relèvent du bien commun, en fait, de la gestion du bien commun. Et donc, c'est à l'État. Et je pense que un des leviers qu'on a pour à la fois être dans l'entrepreneuriat et dans la politique, c'est d'avoir des idées suffisamment ambitieuses en termes d'entreprise et de projet pour qu'elles impliquent qu'on doive nécessairement aller bousculer les politiques pour leur faire changer les choses. Et ça, je trouve ça super. Enfin, moi, c'est là que je m'éclate. Et je pense que les élus, d'ailleurs, aiment bien... Enfin, ça leur donne un peu d'air d'avoir des gens qui arrivent avec des idées un peu folles et qui disent « mais oui, évidemment ». Et quand t'es passionné, en plus, t'arrives à le vendre. Évidemment, il faut que ça existe. Je comprends les blocages. Je vais t'aider à les faire sauter.
Et tu n'as jamais douté de tes projets? Parce que tu en as quand même lancé beaucoup. Est-ce que des fois, tu as eu peur que ça ne marche pas, que tu ne gagnes jamais ta vie avec, que ça ne soit pas viable, etc. Ou est-ce que tu as toujours cru dur comme fer à tes convictions?
Non, on doute forcément. C'est impossible de pas douter. Et puis, on doute, on est en colère parfois parce que ça avance pas et que c'est pas sa faute. Et puis, parfois, on est en colère parce que ça avance pas parce qu'on a fait une connerie. Non, il y a des hauts et des bas dans le monde de l'entrepreneur. Mais... sur le cap, en tout cas, j'ai jamais douté. C'est-à-dire que dès lors que je m'engageais dans un projet que j'avais imaginé, j'étais sûr du bien fondé et de la pureté de l'intention en plus. Et plus ça allait, plus en plus j'arrivais à fixer un cadre opérationnel qui lui-même était éthique, enfin en phase et cohérent avec l'ambition. Donc si on doute toujours, moi en plus les projets généralement c'est des échecs, c'est-à-dire qu'en gros à chaque fois le projet il continue, hein, mais j'arrive à un mur, en gros je faisais de l'éducation, donc j'ai commencé en réalisant des outils pédagogiques sur le développement durable, puis au bout d'un moment je me fais mais c'est pas assez, et puis tout de même... Si on fait la somme de toutes les structures qui font de l'éducation à l'environnement au développement durable, allez on va arriver à 50 millions en France à tout péter, le budget de la pub en France pour nous vendre des SUV, des conneries, etc., c'est 20 milliards. Comment tu veux te battre quand t'as un message pour le développement durable contre 499 pour vendre des SUV? C'est hyper compliqué. Donc l'éducation, boum, j'arrête. Je dis pas que c'est pas utile et je dis pas qu'il faut pas le faire. Il y a plein de, voilà, c'est intéressant.
Tu voulais activer d'autres.
Mais après, action, Bluebees, on voit que c'est un mur. Enfin, c'est pas un mur, mais déjà pour le mettre en place. Mais après, dans l'activité, bon, c'est super, mais on a levé 15 millions d'euros en 10 ans. 15 millions d'euros, c'est ce que le Crédit Agricole accorde en crédit en 2 heures. Donc, on reste petit. Et c'est là que je me dis, bon, bah, il faut changer. Donc, l'agriculture, la méthode de production, on tourne à la racine. Et puis là, on voit qu'en fait, il y a des verrous, qu'il y a de la distorsion de concurrence qui est imposée par Bruxelles, par l'État, et que c'est absurde. Donc là, tu dis, bon, on va changer.
Oui, chaque projet était une passerelle vers un autre projet.
Oui, alors c'est gentil de le dire en forme de passerelle. Moi, vraiment, j'avais l'impression de me taper des murs, quoi. Au bout d'un moment, j'étais face au mur, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Donc, soit tu contournes le mur, soit tu prends de l'élan, soit tu essaies de l'escalader, soit tu essaies de le défoncer. J'ai jamais essayé de le défoncer en direct parce que ça marche pas et donc faut essayer de contourner ou de trouver un autre point de vue qui te permette de voir derrière le mur quoi. Ou de trouver des interstices, des brèches.
Et il faut des personnes comme toi. Merci beaucoup.
Merci.
Est-ce que tu as un mot de la fin ou une citation que tu aimes bien à nous partager pour conclure cette interview?
Tu me prends de court. Non, je redis le truc de tout à l'heure. Hein. On veut bien faire la révolution si dans la révolution on danse. Non, je pense que le mot de la fin pour des jeunes, là on voit bien comment ça se passe hein, dans les répartitions de vote, en fonction des classes d'âge. On comprend qu'il y a un vieux monde qui s'accroche et qu'on peut pas totalement accabler, tu vois. Enfin, on n'est pas là pour être contre. Il faut pas être contre ces gens-là. Faut faire de l'action directement positive et créer le monde qu'on veut voir. Et en fait, ça passe par de la désobéissance parce que trop de règles, de contraintes, de devoirs qui nous sont imposés paraissent absurdes par rapport, un, aux enjeux, deux, aux autres qui ne les respectent pas. Et donc, du coup, il y a vraiment plein de poids, plein de mesures en fonction d'où on est. Et donc du coup, je pense que une des pistes à creuser est dans la joie, qui en plus est festive, parce que c'est festif, c'est la désobéissance. Et moi, je suis très fan et j'ai été à plusieurs des événements et des actions de Extinction Rebellion. Et engagez-vous là-dedans, quoi. Je pense que c'est le terreau. Là, il y a un terreau fertile. Là. Et donc voilà. Donc du coup, désobéissez plutôt que de vous conformer à un truc qui finalement n'a pas de sens.
Joli mot de la fin. Merci beaucoup Maxime pour
tous
ces partages.
Merci.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Œil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.